Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
L'Église catholique condamne la violence perpétrée au nom de l'appartenance religieuse. Le pape François et les cardinaux réunis à Rome ont exprimé leurs préoccupations au sujet des conflits en Ukraine, Syrie, Centrafrique, Nigeria et Soudan du Sud. C'est la une de ce magazine. Le cardinal archevêque de Paris, André XXIII, sera l'un des trois présidents du prochain synode extraordinaire sur la famille qui se tiendra en octobre prochain à Rome. Les cardinaux du monde entier ont débattu pendant 2 jours des réponses à apporter aux évolutions de la famille moderne, avec miséricorde tout en respectant la doctrine. Ce samedi, le Saint-Père remettra la barrette à 18 nouveaux cardinaux, dont 16 électeurs. Ils proviennent de 12 pays différents et représentent tous les continents, un choix qui exprime le lien ecclésial profond qui unit l'Église de Rome aux autres églises disséminées de par le monde. Les cendres de 4 personnalités illustres de la Seconde Guerre mondiale seront transférées au Panthéon. Nous évoquerons la mémoire de l'une d'entre elles, Geneviève, la nièce du général de Gaulle, qui a présidé le mouvement ATD Quart-Monde. Le pape François et le collège cardinalis, réunis en consistoire extraordinaire au Vatican, ont lancé un appel en faveur des nombreux chrétiens qui, dans plusieurs parties du monde, sont toujours plus fréquemment victimes d'actes d'intolérance ou de persécution. Lors d'une réunion de travail de 2 jours consacrée à la pastorale des familles, le Saint-Père et les cardinaux ont exprimé leurs préoccupations au sujet de plusieurs pays en conflit. Olivier Bonnel.
En ouvrant les travaux, le pape François a d'abord eu une pensée pour tous les cardinaux ukrainiens dont le pays est ensanglanté ces jours-ci. C'est ensuite une déclaration au nom des 150 cardinaux présents qui a été lue par le père Lombardi, porte-parole du Saint-Siège, à la mi-journée. Le Saint-Père et les cardinaux ont prié tout particulièrement pour les nombreux chrétiens qui, en diverses régions du monde, sont toujours plus fréquemment victimes d'actes d'intolérance ou de persécution, peut-on lire dans cette déclaration. Un texte qui s'étend aussi aux nombreux pays actuellement lacérés par des conflits internes, la Syrie, la Centrafrique, le Nigeria ou encore le Soudan du Sud. Les cardinaux plaident pour que des solutions de dialogue et de réconciliation soient trouvées et que l'aide humanitaire puisse être acheminée à ceux qui en ont besoin. La déclaration tient aussi à clarifier le danger d'instrumentaliser la religion au service de la violence, alors que bien souvent les conflits ont des racines ethniques, politiques ou économiques. L'Église, tient à préciser les cardinaux, condamne toute violence perpétrée au nom de l'appartenance religieuse et ne manquera pas de continuer à s'engager pour la paix, en particulier à travers le dialogue interreligieux et les innombrables œuvres de charité auprès des personnes qui souffrent dans le monde.
Au Venezuela, l'archevêque de Valencia réclame une enquête sur les tortures infligées à des étudiants à la suite des manifestations du 18 février. 2 jeunes âgés de 21 et 25 ans ont été emprisonnés pendant 60 heures sans jugement. Ils ont déclaré avoir été battus et violés à plusieurs reprises par des membres des forces armées. L'évêque de Valencia demande que toute la lumière soit faite et que les coupables soient punis. Il dénonce également la violente répression des manifestations pacifiques et redoute que le Venezuela ne plonge dans la guerre civile. De son côté, l'archevêque de Caracas a exhorté le président Nicolas Maduro à reconnaître les graves problèmes du pays. La plus grande responsabilité, souligne le cardinal Urosa Savino, repose sur ceux qui sont au pouvoir et donc sur le gouvernement qui devra prendre des initiatives. Il rappelle par ailleurs que le droit de manifester est inscrit dans la Constitution. Des foyers de violence persistent dans différentes villes du pays. L'Église, par l'intermédiaire des évêques et des prêtres, continuent à inviter au calme et à la non-violence. Mais l'augmentation du nombre des jeunes dans les rues semble une invitation à manifester avec encore plus de force contre le gouvernement et la garde nationale. Entre-temps, les denrées alimentaires commencent à manquer dans les supermarchés et les magasins. Les travaux du synode sur la famille en octobre prochain seront dirigés par les cardinaux André XXIII, archevêque de Paris, Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille, et Raimundo Damasceno Assis, archevêque d'Aparecida au Brésil. Le pape François l'a annoncé vendredi au 2e jour du consistoire extraordinaire sur la pastorale de la famille, cellule fondamentale de la société humaine. En octobre 2013, le Saint-Père avait déjà nommé 2 des figures importantes du prochain synode, à savoir le rapporteur général, en la personne du cardinal hongrois Peter Hermann, Pierre II, archevêque de Budapest, et le secrétaire spécial, l'archevêque italien du diocèse de Chieti-Vasto, Mgr Bruno Forte. Complément d'information avec Xavier Sartre.
Au cours de la session de travail ce vendredi matin, pas moins de 43 interventions ont eu lieu. Les cardinaux qui se sont exprimés sont revenus pour beaucoup d'entre eux sur l'anthropologie dans une perspective chrétienne, certains mentionnant en particulier la théologie du corps du pape Jean-Paul II. Le père Lombardi a expliqué que les cardinaux ont également abordé les questions concernant la pastorale de la famille, telle qu'elle se développe au sein des paroisses ou des différents groupes pastoraux, en particulier la question du mariage et de la spiritualité des époux. Une autre série d'interventions des cardinaux ont porté sur la question sensible des divorcés remariés. En particulier ont été évoquées les questions juridiques et canoniques qui sont soulevées par les situations de ces personnes, notamment l'éventualité d'alléger certaines procédures comme les nullités de mariage. La question de l'accès au sacrement des divorcés remariés a également été soulevée dans la salle du synode. Devant les journalistes, le père Lombardi a tenu à préciser que ces questions étaient l'occasion d'un approfondissement des débats et en aucun cas un espace de prise de décision. Répondant à une question sur la morale sexuelle et la contraception, le porte-parole du Saint-Siège a souligné que le chemin synodal était long et que l'on ne pouvait pas évoquer tous les problèmes en deux jours.
Il y a quelques jours, la Conférence des évêques de France avait publié une note à partir des réponses aux questionnaires sur la famille envoyés par le Vatican. Son vice-président, Mgr Pierre-Marie Carré, notait un décalage entre l'enseignement de l'Église et le choix des couples. Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux, revient sur les interventions des prélats sur ces questions lors du consistoire.
Moi-même, si vous voulez, j'ai pris une initiative. C'était donc au trimestre dernier de faire une rencontre, une journée à la fois d'échange, de prière aussi avec les personnes divorcées remariées. Et on a eu une journée aussi avec les personnes divorcées séparées qui n'étaient pas remariées. Je crois que c'est quand même deux situations un peu différentes. Voilà. Et ce qui m'a frappé, d'abord, c'est la grande souffrance de ces personnes. Et ces personnes-là aussi se situaient différemment par rapport à l'enseignement de l'Église. Il y a ceux, quelques-uns, qui sont fidèles à ce que l'Église demande et qui s'abstiennent de s'approcher de l'Eucharistie. Et puis, il y a ceux, c'est là où on peut parler d'un décalage avec l'enseignement de l'Église, qui se réfèrent surtout à leur conscience personnelle. Et donc, par rapport à un sacrement de pénitence ou par rapport à un sacrement de l'Eucharistie, font une démarche en fonction de ce qu'ils pensent devoir faire. Donc, je pense qu'une des questions qui peut se poser, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on va simplement, j'allais dire, confier ça à la subjectivité de chacun, ou bien l'Église met en place une discipline pénitentielle pour permettre à certains, je veux dire, éventuellement, de réfléchir et de revoir ce que pourrait être pour eux, dans certaines conditions et dans certaines circonstances aussi, l'accès à l'Eucharistie.
Il y avait un autre point de décalage, notait Mgr Carré, qui était par exemple la préparation au mariage. Où est-ce qu'il est ce décalage, selon vous ?
Je crois qu'aujourd'hui, les questions concernant la préparation au mariage ne se posent pas comme je les ai vues se poser quand j'ai commencé mon ministère. Quand j'ai commencé mon ministère, on avait affaire à des jeunes, pour la plupart, qui avaient été catéchisés, qui avaient tout laissé tomber à la fin de leur catéchèse, et puis qu'on revoyait pour le mariage. Mais on pouvait faire appel, je veux dire, à ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient connu, une certaine foi. De nos jours, on voit apparaître de plus en plus des fiancés qui n'ont eu aucune catéchèse, qui n'ont même pas été évangélisés, qui viennent parce que leur amour c'est important, parce qu'ils veulent demander quelque chose à Dieu ou parce qu'ils veulent mettre un peu de sacré dans cet amour. Bon, voilà. Et du coup, on se rend compte qu'on ne peut pas aujourd'hui se contenter simplement de préparer la cérémonie, de réfléchir sur le sérieux de la démarche, mais on se dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi une annonce de ce qui est le cœur de la foi à faire à ces jeunes qui viennent pour se marier. Et donc, introduire ce qu'on pourrait appeler un mini-catéchuménat pour que, au moins, ces jeunes qui se marient à l'Église connaissent ce qu'est le cœur de la foi chrétienne. Je crois qu'il y a une responsabilité de l'Église, j'allais dire, de le leur partager.
Près de 80% des conférences épiscopales dans le monde ont répondu par un rapport au questionnaire sur la famille voulu par le pape François en vue du prochain synode des évêques qui se déroulera du 5 au 19 octobre au Vatican. Une synthèse de ces rapports sera présentée le 24 février aux membres du secrétariat général du synode en présence du Saint-Père. La synthèse pourrait servir d'ébauche à l'Instrumentum Laboris, le document de travail préparatoire de l'Assemblée d'octobre prochain. Après la publication par plusieurs épiscopats de rapports particulièrement précis, le secrétaire du synode a regretté que ces documents n'aient pas été réservés uniquement au Vatican, comme prévu initialement. Ce samedi, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape François remettra la barrette à 18 nouveaux cardinaux au cours du premier consistoire ordinaire public de son pontificat. Le secrétaire historique de Jean XXIII, Mgr Capovilla, âgé de 98 ans, ne pourra être présent. Parmi les 16 électeurs, 9 viennent des pays du Sud, dont 5 d'Amérique latine. Parmi eux, de nombreux pasteurs de terrain. Le rite suivra les nouveautés et les simplifications apportées par Benoît XVI en 2012. L'imposition de la barrette, c'est la remise de l'anneau cardinalis et l'attribution du titre ou de la diaconie ont été unifiés. La proclamation de la parole de Dieu a été abrégée. C'est par ailleurs pendant le consistoire de samedi que le premier des nouveaux cardinaux, Mgr Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, s'adressera au souverain pontife au nom de tous. Le consistoire n'a jamais été considéré comme un rite liturgique, mais comme une réunion du pape avec les cardinaux relative au gouvernement de l'Église. Paul VI a voulu que la création de nouveaux cardinaux se déroule dans un contexte de prière, sans toutefois donner l'impression que le cardinalat est un sacrement. Le jour suivant, le pape célèbre la messe avec les nouveaux cardinaux. Aucun français parmi ces futurs cardinaux, mais plusieurs francophones, dont Mgr Langlois, évêque des Cayes en Haïti, Mgr Lacroix, archevêque de Québec, ou encore Mgr Coutois, archevêque d'Abidjan. Quel regard porter sur ce consistoire ? Écoutez le témoignage du cardinal Paul Poupard, président émérite du Conseil pontifical pour la culture.
Il s'inscrit dans cette tendance fondamentale qui est, selon le vœu d'ailleurs du Concile, que le Sacré Collège des cardinaux reflète davantage, j'allais dire, la catholicité de l'Église. Et lui, donc avec une touche un peu particulière, par ce choix, il attire l'attention sur ce qui est aussi une constante de son ministère, sur, disons, les périphéries. Le fait aussi de ne pas avoir nommé cardinaux, j'allais dire, des archevêques de villes qui le sont de temps immémorial, il a montré, si vous voulez, là aussi sa liberté, et de bien montrer que le cardinalat n'est pas un dû qui s'attache à une fonction, mais donc un choix par lequel le pape appelle certains évêques à collaborer de façon plus étroite avec lui. Voilà. Et donc, il a manifesté de cette manière, il a donc projeté, j'allais dire, une lumière plus forte sur le service que les cardinaux sont appelés à rendre dans l'Église.
Des propos recueillis par Hélène Destombes. Dans la soirée de vendredi, le pape François devait s'entretenir avec la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, venue assister à la création d'un nouveau cardinal brésilien, Mgr Orani Tempesta, archevêque de Rio de Janeiro. Il y a quelques jours, Dilma Rousseff avait annoncé son intention d'aborder avec le Saint-Père des thèmes tels que l'insertion sociale et la lutte contre la pauvreté et de l'inviter à venir au Brésil pendant le Mondial de football. La présidente brésilienne a déclaré qu'elle respectait beaucoup le pape François parce qu'il est engagé en faveur des pauvres et parce que c'est un pape latino-américain. Le Brésil, le pays le plus catholique du monde en nombre de fidèles, compte désormais 10 cardinaux. Et le maire de Lourdes a remis en main propre au pape François une invitation à venir en pèlerin dans la cité mariale, au lieu de pèlerinage, surtout pour les malades. Selon son entourage, une visite serait possible en 2015. L'invitation formulée conjointement par le maire et l'évêque de Lourdes, Mgr Nicolas Brouvet, s'ajoute à deux autres en provenance de France, de la conférence épiscopale et de la présidence de la République, selon un proche collaborateur du maire dont les propos ont été rapportés par l'AFP. Les cendres de 4 personnalités illustres de la Seconde Guerre mondiale seront bientôt transférées au Panthéon. Parmi elles, Geneviève de Gaulle-Antonieuse, la nièce du général, déportée pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a fait de la défense des plus pauvres une priorité. Elle a d'ailleurs été la présidente d'ATD Quart-Monde, le mouvement international de lutte contre la grande pauvreté et l'exclusion sociale. Marie Jarlingue milite pour le mouvement. Elle a connu Geneviève de Gaulle-Antonieuse.
C'était une femme qui vraiment, toute sa vie, a été exemplaire. on l'a côtoyée dans le mouvement Tédé Carmonde, où elle est venue dans le bidonville où moi j'étais gamine. Je devais avoir 14 ou 15 ans les premières fois qu'elle est venue dans le bidonville de Noisy-le-Grand. Moi, ce dont je me souviens d'elle, c'est que jamais elle est venue en grande dame ou pour nous donner des leçons, pour des choses comme ça. Ce qui était vraiment très rare à cette époque-là, parce que toutes les personnes bien pensantes et puis pleines de charité, hein, je dis pas le contraire, mais c'était souvent des personnes, faut faire comme ci, faut faire comme ça, et quand on n'a rien, on fait comment? Puis on les revoyait plus. Et Geneviève est venue, elle est venue avec toute son humilité, c'est une femme très très humble. Et puis je ne saurais comment vous dire, mais je sais que tout de suite on a ressenti une proximité avec elle. Bien sûr, par rapport à son vécu de prisonnière, hein, ça on ne le savait pas tout de suite. Hein. Moi, j'étais trop jeune pour comprendre toutes ces choses. Hein. En tout cas, un ressenti comme quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance et qui était comme une proche, quoi, comme une proche.
Et qu'est-ce qu'elle a apporté justement à la cause des personnes en grande souffrance, dans la pauvreté?
En fait, elle-même déjà, c'est beaucoup, moi je trouve. En fait, on a compris très vite qu'elle venait pour lutter auprès de nous. Et quand je dis auprès de nous, ça veut dire pas à notre place, mais ensemble. Et ça, c'est tout de suite aussi. C'était d'avoir des conversations en disant, bah oui, c'est pas juste. Et aussi de rentrer parfois dans nos colères. Hein. Elle était vraiment très humble et très douce. Mais en tout cas, elle était ferme dans ce combat contre les exclusions. Elle était auprès de nous pour, ensemble, qu'on puisse sortir de ces situations-là de grande pauvreté.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de reparler avec elle plus tard de ces engagements qu'elle avait pris?
Ben écoutez, en fait, on a suivi toute notre vie, parce que moi aussi j'étais militante, hein, je suis devenue militante et je suis restée très proche du mouvement jusqu'à aujourd'hui. Toute sa vie, elle a été la même femme, quoi. Je me souviens, par exemple, pour la loi contre les exclusions, il n'y a pas de choses qui n'ont pas été faites avec les gens qui vivaient la pauvreté. On se réunissait parfois à Paris pour discuter certaines questions que l'on vivait et qu'on sentait bien qui étaient injustes. Et Geneviève était très souvent de ces discussions et même parfois on allait en petits groupes aux rencontres avec la commission des droits de l'homme et on mettait en commun et Geneviève était parmi nous, quoi. Et Geneviève, c'est une femme de foi aussi, sûrement que ce combat était aussi pour la gloire de Dieu, quoi. Parce que franchement, l'humanité qu'avait Geneviève, c'est du divin, quoi, par sa personnalité et par ce qu'elle était. C'était une femme qui était là pour restituer l'humain dans son humanité.
Pierre-Yves Médinier, le président d'ATD Carmonde France, un poste occupé par Geneviève de Gaulle-Antonieuse pendant presque 40 ans, de 1964 à 1998. À l'annonce de cette nouvelle, il a ressenti, comme l'ensemble du mouvement ATD Carmonde, une grande émotion.
Vous savez, dans le mouvement ATD Carmonde, il y a des personnes qui sont nées dans la grande pauvreté et qui partagent le combat avec d'autres pour détruire la misère, c'est les militants Carmonde. Il y a les volontaires permanents qui prennent un engagement pour aller rejoindre les plus pauvres. Et à la fin de sa vie, Geneviève Antonios de Gaulle a été une simple volontaire permanente du mouvement ATD Carmonde. Et puis aussi les alliés, c'est-à-dire tous ceux qui sont un petit peu partout dans la société et qui s'unissent, qui font alliance avec les plus pauvres pour détruire la misère. Elle a été alliée du mouvement ATD Carmonde pendant de très nombreuses années.
Et qu'est-ce que son action peut apporter aujourd'hui dans les luttes, par exemple, que vous menez encore?
Eh bien, je pense qu'il y a des images qui resteront toujours présentes. Celle de son intervention à l'Assemblée nationale, pour après avoir fait un rapport au Conseil économique et social, pour ce qu'allait devenir la loi de lutte contre les exclusions, la loi de décembre 98. Cette femme si frêle et si forte dans ses convictions, qui portait le combat de tout le Carmonde, ça c'est quelque chose qui restera comme une très forte inspiration pour nous et puis pour beaucoup de personnes qui sont en dehors du mouvement ATD Carmonde, mais qui sont dans ce grand courant du refus de la misère.
Marie Jarlingue et Pierre-Yves Médinier, interrogés par Audrey Radondi. Le pape François s'est félicité du renouveau profond de la vie liturgique rendu possible par le Concile Vatican II. Il l'affirme dans un message au préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements à l'occasion du cinquantenaire de la promulgation de la Constitution conciliaire Sacro Sanctum Concilium sur la liturgie. Le Saint-Père reconnaît qu'il reste encore beaucoup à faire pour une assimilation correcte et complète de cette Constitution de la part des baptisés et des communautés ecclésiales. Pour lui, une liturgie détachée du culte spirituel est risquerait de se vider, de perdre l'originalité chrétienne, pour finir dans une dimension sacrale quasi magique et un esthétisme vide de sens. Le chapitre général des Salésiens va s'ouvrir dans quelques jours. Les participants doivent élire le 10e successeur de Saint Jean Bosco et définir les orientations de la congrégation pour les 6 prochaines années. Ce 27e chapitre sera précédé d'un pèlerinage sur les lieux salésiens du 22 au 25 février, notamment à Turin. Puis à partir du 3 mars et jusqu'au 12 avril, les 203 pères capitulaires et leurs 13 invités se retrouveront à Rome. La réflexion communautaire sera axée sur le thème du témoignage et de la radicalité évangélique. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie, mais je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Bonne fin de semaine à tous.